Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Quand je serai grand, je serai astronaute.
Ouais, quand je serai grand, je serai actrice.
Bienvenue sur Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Nous sommes deux amis, Ulrich et moi, c'est Priska. Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités les problématiques liées au racisme et aux discriminations que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes vivent de la maternelle au banc des grandes écoles. Cette rencontre a été enregistrée en avril 2021. Notre invitée est Jessica Girondal-Mouiza, franco-rwandaise de 29 ans, éducatrice spécialisée, vice-présidente de l'association Ibuka France qui œuvre pour la mémoire, justice et soutien aux rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Elle est aussi conférencière et blogueuse afro-féministe. Pour les enfants du bruit et de l'odeur, Jessica revient sur les différents aspects du racisme au sein de sa vie personnelle, professionnelle. Elle nous partage donc son analyse sur son expérience d'enfant assigné métisse, du mépris et manque de bienveillance durant son parcours scolaire, le racisme au sein de son milieu professionnel qui se traduit par le complexe du sauveur et l'infantilisation des personnes les plus démunies. Et en ce mois de commémoration, Jessica nous parle de la genèse du génocide des Tutsis et l'importance de la mémoire. Je vous laisse découvrir toutes ces thématiques avec notre invité. Prenez place et bonne écoute. Bonjour Jessica.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à nos auditorices pour qu'ils puissent savoir un peu qui tu es, ce que tu fais? Je te laisse la parole.
Merci, avec plaisir. Alors, je m'appelle Jessica Girondal-Mouiza, j'ai 28 ans, j'ai la double nationalité franco-rwandaise, après avoir demandé la nationalité rwandaise en 2017. Ce que je fais, je suis éducatrice de profession depuis 3 ans. Je m'occupe principalement des adolescents, en fait. Je suis éducatrice de rue dans le 19e arrondissement de Paris. Et je suis aussi la vice-présidente de l'association Ibuka, qui est l'association qui s'occupe des questions de mémoire, de justice pour le génocide contre les Tutsis perpétré en 94 au Rwanda.
D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce que ça signifie, Ibuka? Ça a peut-être une signification?
Ibuka, ça veut dire « souviens-toi ». Parce que c'est notre but principal, en fait, que la mémoire des personnes qui ont perdu la vie en 94, plus d'un million Tutsis, ne soit pas oubliée, ni masquée, ni effacée par les procédés de la négation.
D'accord, merci. Du coup, je vais parler un petit peu de toi, enfin tu vas parler un peu de toi, ça va pas être moi qui vais le faire. Est-ce que tu peux me dire comment était la petite Jessica? Tu étais comment, petite enfant?
La petite Jessica, oh là là, la petite Jessica était très solitaire. Parce que j'ai grandi dans le Var, dans le sud de la France. Ma maman est tombée malade assez tôt, en fait, des suites du trauma dû au génocide contre les Tutsis, à la perte de ses parents. Donc ma mère a toujours fait des longs allers-retours à l'hôpital. Mon enfance n'était pas super joyeuse de ce point de vue-là. Mon père travaillait très dur. Lui non plus n'était pas du coup à la maison. Mon grand frère, lui, s'échappait avec ses amis, il faisait les 400 coups, ils étaient tout le temps sur leur vélo. Et moi, j'étais plutôt seule dans ma chambre avec mes livres, en fait. C'était plutôt ça, mon enfance. J'ai continué un petit peu dans ma solitude et dans l'amour des livres pendant très longtemps. Et c'est quelque chose qui m'a façonnée, c'est vrai. La petite Jessica, elle était très, très curieuse. Je me suis toujours intéressée à tout. Mais vraiment très casanière. Ce que j'aimais faire quand j'étais petite aussi, c'était écouter la musique. Beaucoup, beaucoup. Si maintenant je suis une très, très grande fan de R&B, ça a commencé vraiment dans ma chambre, hein, avec Beyoncé, des Destiny's Child, avec Aaliyah. Et par ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de Noirs là où j'étais, dans le sud de la France, en fait, j'étais persuadée que mon peuple, c'était les Noirs américains. donc mon attachement à la musique, là, ça a vraiment commencé dans ma chambre petite.
C'est rigolo parce que, bon, je pense qu'on n'est pas de la même génération. C'était à quelle époque, ça?
Oh, ça, c'était années 90, début 2000.
Et tu avais quel âge, à peu près?
J'avais autour des 10 ans. D'accord. 8, 9, 10 ans. À cet âge-là, déjà, j'écoutais beaucoup de... C'est très étonnant, de rap américain. Et même de gangsta rap.
Wow. 10 ans.
Comme je disais, hein, j'étais comme ça, solitaire, avec ma musique, avec mes livres. C'était mon univers. Et aujourd'hui, c'est plus ou moins le même.
D'accord. Parce que moi aussi, en fait, bon, j'étais déjà plus grande, mais je m'enfermais dans ma chambre en écoutant Alia et Beyoncé. Donc, voilà. Mais j'avais pas 10 ans. Et ça se passait comment avec tes parents, la relation familiale? Je t'ai entendu, par exemple, dans un des épisodes de Kif Taras où tu parles par rapport au métissage.
C'est ça. En fait, je me définis pas comme métisse. Je peux expliquer ça en deux temps, en fait, parce que j'ai été élevée quand même par mon père qui est blanc. Donc j'ai été élevée dans l'univers en fait le plus blanc qui soit. Mon éducation c'est vraiment à la française. En plus mon père est d'une ancienne génération, lui est né en 49. Donc non, j'ai tous les apports culturels bien franco-français, je les ai. Seulement ce que me renvoyait l'extérieur, c'est que j'étais une petite fille noire, quoi. Il y avait même pas cette idée de t'es métisse, non. Pour les sudistes, j'étais noire et j'avais ce sentiment là d'être étrangère, d'être vraiment rejetée. De la part de mes camarades de classe, j'ai pu entendre de temps en temps que oui, j'étais métisse, mais pour moi ça voulait rien dire. Il y avait aussi beaucoup de curiosité malsaine derrière. À chaque fois qu'on parlait de mon métissage, c'était un peu pour me demander mais t'es quoi. Comme si j'étais un petit peu un chien exposé dans un concours, quoi. C'est quoi ce mélange? Pourquoi ça donne ces yeux-là? Pourquoi ça donne ces cheveux-là? Et j'avais l'impression d'être une bizarrerie exotisée sous les yeux des gens. Donc non, pour moi, le terme métisse, c'est l'exemple même du racisme biologique le plus pur, parce que c'est littéralement de dire aux gens, donc toi, tu es le noir dilué dans le blanc, et voilà ce que ça fait de toi, et non, c'est pas mon identité, ça. Donc je me considère pas comme métisse. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir l'expérience d'une femme noire en France. Tout ce qu'on peut entendre sur le racisme qui nous touche, le sexisme, l'exotisation, l'infériorisation, comme le dit très brillamment Fatima Wassak, la désenfantisation quand nous sommes très jeunes. Tout ça, c'est des choses que j'ai vécues. Et jamais je me suis dit, par exemple, ah, dans telle situation, je peux jouer mon côté blanc. Non, ça n'est jamais arrivé de toute ma vie. Il n'y a jamais eu de côté blanc qui m'a sauvée. Alors, ça ne veut pas dire que je vis le même racisme que les personnes dark skin. Là, je suis intimement persuadée que ce n'est pas la même chose du tout, que c'est beaucoup plus dur.
Alors, je fais juste une petite parenthèse. Les personnes dark skin, donc les personnes noires plus foncées, en fait, tout simplement.
Voilà, c'est ça. Donc, le colorisme existe et vraiment, je sais que j'ai plus de facilité dans la vie que des personnes plus foncées de peau. Mais vraiment, j'ai jamais pu sortir cette fameuse carte que souvent les gens évoquent de non, mais en fait, je suis de votre côté. Parce que non, il y avait juste pas l'espace du tout. Et en fait, dans ma famille majoritairement blanche, je me sentais vraiment à l'écart. Vraiment très à l'écart, surtout dans la famille recomposée, où mon frère et moi, on trouvait pas trop notre place, en fait.
Et comment ça, tu te sentais à l'écart? Il y avait des gestes, des mots, c'était une mise à l'écart de leur part, hein? C'était comment?
Je pense que c'était pas du tout voulu, que c'était plutôt quelque chose qui venait naturellement pour eux. On se sentait un petit peu comme les invités, en fait, perpétuels, même au repas de famille, des choses comme ça. C'est comme si on était toujours un petit peu extérieur. Et après, il y a ce que je raconte souvent, les blagues. Ces fameuses blagues entre guillemets racistes qui sont juste du racisme, en fait, parce qu'on peut parler de blagues quand on rit avec quelqu'un, mais quand on rit sur le dos de quelqu'un, quand toute une table de plusieurs dizaines de personnes rit de toi, mais que toi à l'intérieur tu as juste envie de disparaître et de morfondre, en fait, ça c'est le racisme. Et c'est ce qui a vraiment fragilisé mon expérience d'enfant. c'est que je vivais du racisme à l'extérieur et que quand je rentrais chez moi, j'avais pas cette bulle protectrice où peut-être je peux raconter ce qui m'est arrivé, être comprise. Non, c'était plutôt la reproduction de l'extérieur, mais sous forme de blague. Donc, c'est ça aussi l'expérience de vie particulière des personnes assignées métisses. C'est que très souvent, dans les cadres où c'est très majoritairement blanc, en fait, on n'est pas à l'abri.
Et du coup, tu l'as appris comment, toi, tout ça? Est-ce que tu as eu l'impression que ça a eu un impact sur ta construction? Est-ce que c'était quelque chose d'assez difficile?
C'était quelque chose de difficile parce qu'en fait, j'ai malheureusement appris à encaisser. Et à me dire, c'est comme ça, c'est pas grave, en fait, c'est la vie et ça va être ça tout le temps. Et j'ai mis vraiment du temps avant de me dire, c'est pas OK. Je peux répondre. Il faut que je cherche comment me protéger et aussi comment répondre. Pour aller ensuite à l'étape, essayer de moi-même protéger, aider mes semblables.
Et tes parents dans tout ça, ils en disaient quoi? Ils faisaient comment? Est-ce qu'ils prenaient position? Est-ce qu'ils t'aidaient? Est-ce qu'ils t'expliquaient? Parce que quand tu dis que en fait tu vivais du racisme à l'extérieur et qu'à l'intérieur il y avait aussi des blagues, là tu parles bien sûr de la famille élargie. Mais comment ça se passait avec tes parents, ton père blanc et ta maman noire?
Ma maman, vraiment, j'ai pas assez vécu avec elle. Les allers-retours à l'hôpital, c'était très tôt. Je suis née en 92. Le génocide, c'était en 94. Et là, déjà, ça allait plus du tout. Donc, surtout mon père qui nous a élevés. Et il y a deux aspects vraiment pour répondre à cette question. Le premier, c'est que vraiment, c'était la lutte. On était très pauvres. Ils travaillaient beaucoup, vraiment d'arrache-pied, pour qu'on puisse tout simplement avoir des repas le soir, quoi. Le truc le plus basique. Moi, souvent, j'allais à l'école, j'avais les fringues de mon frère, de mon grand frère, des pulls à lui, des choses comme ça. Donc non, c'était assez difficile. Et en plus de ça, il est d'une ancienne génération, comme je disais, né en 49. Et cette génération-là ne considère pas les enfants comme des êtres à proprement parler. En fait, on discute pas des choses sérieuses avec les enfants. Moi, j'ai appris que ma place à table, c'était surtout de me taire, quoi. Surtout quand il y avait des invités, d'autres personnes, de la famille élargie. Donc, en fait, j'ai intériorisé ce truc de, et ce qui est très malheureux, surtout pour une femme noire en contexte français-européen, de j'ai pas vraiment ma place et j'ai pas mon mot à dire. Et ça, c'est peut-être la chose contre laquelle je me suis battue le plus. Et encore aujourd'hui, il y a souvent des moments où je dois essayer de me déprogrammer et de me dire non, en fait, si tu as envie d'écrire ça, tu as le droit d'écrire ça. Si tu as envie de parler, tu as le droit de parler. J'ai toujours des blocages par rapport à ça, en fait.
On avance un petit peu et puis du coup, tu grandis, tu vas à l'école. Et ça se passe comment, l'école, pour toi?
Waouh, l'école, ça a toujours été compliqué. Par le fait en fait que j'étais pas très suivie par mes parents, du coup, de fait de ce que j'expliquais, et donc je travaillais pas, je travaillais pas du tout, je faisais que ce qui m'intéressait. Ce qui m'a sauvée, c'est que j'étais curieuse et que je lisais beaucoup. Donc j'ai toujours eu des bonnes notes dans les matières littéraires, historiques, culturelles, et d'excessivement mauvaises notes dans les matières scientifiques. Donc ça, c'est mon parcours de la plus petite classe à la fac, quoi. C'est que s'il fallait pas faire beaucoup d'efforts, donc lire, écrire, moi j'étais là, j'avais les bonnes notes. Et dès qu'il fallait travailler un petit peu sur la logique, les mathématiques, il y avait plus personne. Et je pense que l'amour de la lecture, c'est ça qui a fait que j'ai pu finir ma scolarité. Bon, après, j'ai pas un parcours très linéaire non plus, parce que j'ai voulu aller en droit après le bac. Après, je me suis rendu compte que l'univers ne me correspondait pas du tout. J'étais à Aix-Marseille 3, à Aix-en-Provence, qui était à l'époque, début des années 2010, réputée comme la deuxième ou troisième meilleure fac de France, je sais plus. Un environnement insupportable, d'héritiers, d'enfants de familles riches, de droite extrême. Une faculté très raciste, des professeurs eux-mêmes... je saurais même pas comment qualifier ça. En première année, par exemple, je me rappellerai toujours en cours de d'économie politique, le professeur qui refuse d'aborder les théories de gauche, en fait, et qui nous l'explique devant l'amphithéâtre de 500 personnes. Ça ne l'intéresse pas et qui ne verra pas ça avec nous. Et en fait, l'idéologie était omniprésente, était partout. Et c'est l'idéologie qu'aujourd'hui je combats, le capitalisme le plus raciste qui soit. Mmh. Et il fallait être dans ce moule-là pour réussir, ou du moins même pour apprécier les études de droit. Mmh. Et moi, j'ai pas tenu, en fait. J'ai pas tenu. Là, je commençais déjà à militer, à faire autre chose et à me dire qu'en fait, les études, ça passait après.
Enfin, quand tu dis que le prof refusait d'aborder les théories, c'était dans le programme, c'est ça? Et vous passez outre le programme?
Tout à fait. Par exemple, on devait étudier les théories marxistes, mmh. comme toutes les autres facs de France dans la même matière. Ça n'est jamais arrivé parce qu'ils ne voulaient pas. Aussi, je me rappelle que les professeurs étaient très fiers que la fac d'Aix-Marseille 3 soit, je crois, la seule fac de France à ne pas s'être mobilisée en 68. Ça, c'était genre la fierté de la fac. Et je pense qu'il n'y a pas eu un moment dans ma vie où je me suis moins sentie à ma place qu'à ce moment-là. En entrant dans ces amphis avec ces personnes habillées en costume en première année, en deuxième année. Mmh. Les tailleurs, les chaussures, les trucs, les machins. Moi, je disais, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais là?
Et est-ce que durant ton parcours, tu as eu des expériences de discrimination? Est-ce que tu as eu l'impression que le racisme a eu un impact?
C'est sûr qu'il a été présent. Je sais plus comment je le percevais, surtout quand j'étais petite, mais il a été présent. Déjà, j'ai comme premier souvenir certain que jamais mes qualités d'écriture n'ont été reconnues à l'école. J'avais des bonnes notes en dissertation, toujours. Mais jamais aucun professeur n'a essayé de me pousser à exploiter ça. Je n'ai jamais eu de conseils par rapport à ça. Mmh. Et donc, je restais là avec mes réussites sans savoir trop quoi en faire au final. Donc ça, c'était quelque chose de très frustrant parce que je pense que j'aurais pu être orientée d'une bien meilleure manière que juste me décider à aller en fac de droit. De par ce simple fait, je m'intéressais à l'actualité, je m'intéressais beaucoup au social, j'aimais lire, j'adorais écrire. En sciences économiques et sociales, j'avais toujours des notes excellentes, philosophie aussi, français aussi. Mais j'avais toujours des moyennes très basses parce qu'en vraiment, les matières scientifiques, c'était une vraie catastrophe. Mmh. Ce que j'ai beaucoup ressenti aussi, c'est le mépris. Dans ces cours de maths où j'étais tétanisée d'attendre le tour où j'allais devoir passer au tableau, je sentais beaucoup de méchanceté en fait de la part du professeur qui voit que tu n'as pas compris, que tu n'y arrives pas, qu'il y a des choses qui te manquent en fait pour y arriver, mais qui en fait prend un certain malin plaisir à t'envoyer quand même au tableau devant tout le monde. En fait, c'est un peu sadique comme histoire, ces trucs-là. J'ai jamais compris. C'est quoi le but en fait?
Et en plus, tu perds confiance quand t'es enfant, quand tu n'y arrives pas.
Tu perds confiance, c'est devant le regard des autres, c'est une vraie catastrophe, quoi. Et il n'y a pas de démarche pédagogique derrière, à part dire par la suite, t'es nul et t'auras jamais ton bac et tu vas rater ta vie.
C'est ce qu'on te disait.
Qui sont des choses que j'ai entendues littéralement. Aussi, au collège, j'ai eu des expériences catastrophiques avec les conseillers d'orientation psychologues. Je me rappelle, par exemple, d'une fois où mon père m'accompagnait et quand même, il avait toujours des très hautes attentes pour moi, pas dans les bonnes matières, mais c'est pas grave. Et il disait, si, ma fille va faire école de commerce. Parce que bon, les parents, c'est toujours droit ou école de commerce ou médecine.
Oui.
Donc, moi, la pioche, c'était école de commerce. Et le conseiller d'orientation, il a dit, non, je crois qu'il faut viser autre chose. Peut-être un BEP fleuriste, quelque chose dans la vente, peut-être. Et là, dans mon esprit, je me suis dit, bon, ok, peut-être que mon père, là, à l'école de commerce, c'était pas ça, mais au moins, c'est mignon, parce que comme tout parent, il voulait que j'aie quelque chose de très bien. Mais alors, le conseil d'orientation, dont c'est le métier, sans aucune explication ni aucune forme de logique par rapport à mon parcours, me sort le truc de fleuriste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, en fait?
Mais déjà, c'est des orientations vers des milieux, en fait, professionnels. Mais c'est incroyable, en fait, le nombre de personnes, noires, racisées, maghrébins, qui vont être désorientées à partir du collège, On a toujours le même type de profil qui vont être envoyés vers des filières professionnelles. Et pas vers n'importe quelle filière professionnelle. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi une classification des filières professionnelles.
Exactement. Mais en tout cas, j'ai jamais, à aucun moment, dans toute ma scolarité, senti, entendu, de la bienveillance, en fait, des encouragements. Et c'était juste ça qui me manquait. Et je pense à la maison, mais ça pour des circonstances vraiment extérieures. et aussi à l'école. Enfin, je peux pas dire tel professeur m'a poussé, m'a encouragé, m'a dit ci, m'a dit ça. Jamais. Mm. Alors que je sais très bien que j'avais des capacités et que j'avais des bonnes notes par ailleurs dans certaines matières. Comme je disais, dès qu'il s'agissait de disserter sur un sujet, c'était bon. J'avais les meilleures notes. Pour tout le reste, bon, un peu moins bien.
Et du coup, tu as grandi, tu as changé de filière, tu es maintenant éducatrice, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Mm. Et ça se passe comment, en fait, justement, toi, dans ton métier? Est-ce que tu vois, par exemple, la différence de traitement, parce que les éducateurs et éducatrices sont aussi en relation avec les enfants. Mmh. Est-ce que tu vois des différences de traitement? Est-ce que tu vois un racisme, par exemple, dans le comportement qu'ils pourraient avoir auprès des enfants racisés?
Alors ça, c'est un vaste sujet, vraiment. Déjà,
je te laisse le développer.
Faut que j'explique rapidement comment je suis venue à l'éducation spécialisée, parce que ça va un petit peu, c'est dans le sujet. Après la fac de droit, donc, que j'ai faite à moitié, parce que tu as compris ma motivation dans le contexte, je suis très vite allée dans le militantisme, dans l'association Les Jeunes Socialistes, en fait. Dans le sud de la France, c'était un militantisme, il faut toujours que je m'explique là-dessus, parce que les gens se disent, waouh, socialiste, mais aujourd'hui, c'est tellement mal vu. Mais en fait, à l'époque, et dans le Var, c'était un militantisme particulier, très radical. C'était de la lutte directe contre les pires skinheads, les pires racistes, aux crânes rasés qui soient. Et c'était aussi la seule association, parce que étant culturellement très pauvre, les alentours de Toulon, c'était soit ça, soit le club d'échecs, quoi.
D'accord.
Comme ouais. inscription dans la vie publique. Donc j'ai choisi ça, et aussi entourée et poussée par mes amis du collège et du lycée, qui étaient tous plus ou moins fils de prof, et donc dans ces réseaux-là. Et en fait, donc j'ai coupé avec les études quand même un petit paquet d'années avant d'entrer aussi à la CIMAD et de commencer à faire des permanences d'accueil des primo-arrivants, des personnes migrantes. Et c'est là que je me suis rendu compte que je faisais de l'accompagnement social, mais de manière bénévole, et que j'avais très envie d'en faire mon métier. Donc j'ai passé le concours, j'ai fait les 3 années d'études. Et c'est vrai qu'il y a un constat implacable. Hein. Et lors de ces années d'études, pour devenir éducatrice spécialisée, et dans mes nombreux stages... Et dans mon contrat actuel, en fait, on est dans ce milieu particulier où les personnes sont persuadées de faire le bien. Que ce soit les assistants sociaux, les assistantes sociales, les éducateurs, les éducatrices, les personnes qui interviennent au sein des familles aussi. Tout le monde est tellement intrinsèquement persuadé de faire le bien que personne ne regarde son propre comportement. Et c'est certainement pas dans les formations du social qu'on apprend tout ce qui est de l'ordre des discriminations systémiques. Alors, en fait, tout ce que je peux dire, c'est que ça part dans tous les sens. Et que le racisme que l'on connaît bien, systémique, intériorisé, ben, en fait, il s'exprime par toutes les voies possibles. Et le travailleur social, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. C'est bizarre à dire comme ça, mais sur la vie d'une personne accompagnée, la voix, les choix, les actions du travailleur social, de la travailleuse sociale, ont beaucoup trop d'importance, en fait. Et là, j'ai vu des personnes, effectivement, qui se permettent de décider à la place des personnes accompagnées. Ça fait partie du racisme, de considérer que les personnes accompagnées, dans les quartiers populaires, par exemple, ne peuvent pas penser par elles-mêmes. N'ont pas elles-mêmes les propres ressources pour avancer dans leur vie, pour s'émanciper. Ça, c'est la chose que je vois le plus souvent.
Tu parles des jeunes dont on s'occupe, hein, c'est ça ?
Oui, je parle des jeunes dont on s'occupe, que l'on accompagne, mais aussi des familles, des mères de famille. Souvent, ce qu'on appelle vulgairement les mamans de quartier, en fait, elles sont tellement...
Infantilisées.
On les traite vraiment comme des semi-personnes. Elles sont là pour sourire, pour être gentilles, pour offrir le thé et les gâteaux. Mais à part ça, leur expertise ne compte pas, leur avis ne compte pas, et on prend les décisions à leur place, en fait. Et ça, c'est des choses très graves, parce que les enfants même ressentent à quel point leurs parents ne sont pas respectés. Et moi, j'ai écrit un mémoire, là, que peut-être un jour je publierai, je ne sais où, sûrement sur mon blog, pour parler du racisme des travailleurs sociaux, parce que...
Tu peux publier chez nous, hein.
Avec plaisir. Parce que ça m'a tellement choquée, c'est tellement visible, c'est tellement criant, et en même temps, impossible à dénoncer. Impossible à dénoncer. Dès qu'on retourne ce miroir-là face aux personnes qui se comportent de la sorte, là, la fragilité blanche, elle s'exprime, mais d'une manière dont personne n'a idée. Parce que le travailleur social est intrinsèquement bon. Il a la cape, là, qui vole dans son dos. Et dans ce cas de figure, essayer même sans dénoncer en interne de discuter des pratiques, c'est déjà impossible. Il y a déjà un blocage. Malheureusement, je pense qu'on manque encore un petit peu de d'écrit sur la question.
Mais ça commence à... Pas d'analyse, pas de théorisation, c'est ça ?
Ouais, moi j'ai trouvé très peu de choses quand j'ai écrit mon mémoire sur le racisme et le travail social, et j'ai trouvé beaucoup du côté des Belges, du côté des Québécois, qui eux parviennent à réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'être un travailleur social blanc, en fait, dans un contexte majoritairement non blanc. Quelles postures sont à éviter ? Qu'est-ce qu'il faut travailler ? Au moins ils arrivent à penser, quoi. C'est pas pour dire qu'ils se comportent mieux ou que c'est mieux ailleurs, mais en France on ne peut même pas réfléchir à ça.
Ils se questionnent sur ces problématiques.
Exactement. Moi j'ai comme souvenir d'un dialogue que j'avais eu sur les violences policières. J'étais en formation et en fait je me rappelle, les deux formatrices là d'un coup se sont braquées. J'ai vu leurs sourcils se froncer, leurs bras se croiser, et d'un coup on m'a demandé d'être neutre. On m'a dit, vous vous rendez compte que quand même dans notre profession il faut être neutre. Alors moi je leur ai dit, écoutez, je sais ce que c'est être raciste, je sais ce que c'est être antiraciste, mais je sais pas ce que c'est être neutre. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Et elles étaient bien embêtées, elles n'ont pas réussi à répondre, mais elles ont continué dans leur idée en me reformulant ça d'une manière et d'une autre, quoi.
Mais c'est ce qu'on demande souvent aux personnes, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans beaucoup de choses, on parle de neutralité, comme si prendre position clairement, en fait, pour l'antiracisme, voulait dire qu'on est en train de faire propagande, hein, limite. Mais Mabula Soumaoro, justement, en parle très bien dans son livre « Le triangle et l'hexagone », où quand elle a écrit sa thèse, on lui a dit qu'elle était peut-être, enfin qu'elle n'était pas neutre et qu'un chercheur devait être neutre en réalité. Mais on n'est jamais à 100% neutre. Hein. On vient avec ce qui nous définit, ce qui nous anime. Et clairement, quand on choisit des sujets de thèse, c'est qu'il y a un intérêt quelque part. Donc en fait, il n'y a pas vraiment une neutralité à 100%, quoi.
C'est ça. Et j'ai observé de nombreuses choses. Hein. Je pense que chaque travailleur social, travailleuse sociale qui a une expérience et qui est racisé pour écrire tout un livre sur notre domaine, vraiment.
Dans quel sens ?
Paf, j'ai des exemples. Hein. Quand j'étais en maison pour enfants, je me rappelle, il y avait trois jeunes filles mineures non accompagnées, donc noires, africaines. Deux étaient... Que je ne dis pas de bêtises. Non. Une était angolaise, une centrafricaine et une congolaise, Congo-Brazzaville. Mon premier jour, il y avait une réunion de service. Ces trois jeunes filles-là, ça faisait, pour deux d'entre elles, ça faisait 4 ans qu'elles étaient là. Et pour la troisième, ça faisait 3 ans. Quand même, pour dire un petit paquet d'années dans la même structure, dans la même maison. Et pendant la réunion, la première réunion à laquelle j'assiste, on me présente toutes les filles. Quel est leur parcours, leur histoire, et quel est leur projet d'accompagnement. Et arrivé à ces trois jeunes filles, aucun éducateur, éducatrice, et ni même la chef de service n'était capable de me dire quelle était leur nationalité. Personne.
Elles sont juste noires.
elles sont juste noires, en fait. Et là, je me suis demandé, mais en fait, sur quoi ils travaillent? On est censé travailler à partir de la vie des gens, de leurs paroles, de leur expérience. Ça fait 3-4 ans que tu accompagnes des jeunes filles, tu n'es même pas capable de retenir le pays dans lequel elles sont nées et dans lequel elles ont vécu l'écrasante majeure partie de leur vie. Il y a eu ça, il y a eu aussi des comportements racistes en fait de la part des jeunes filles blanches envers ces jeunes filles noires. Et toujours une grande capacité d'esquive des travailleurs sociaux. Moi, à chaque fois, je questionnais, je disais, mais ça, il faut reprendre, ça, il faut travailler, ça, il faut convoquer un tel et discuter et faire quelque chose. Et en fait, non, c'était jamais important, en fait, de traiter ces questions. Pire, l'une de ces trois jeunes filles noires a commencé à se faire, accusée de communautarisme. On disait en réunion de service, oui, non, mais celle-là, apparemment, à l'école, elle ne reste qu'avec des filles noires, et puis elle pense qu'elles font comme les Black Panthers, des choses comme ça. J'ai entendu des choses comme ça en réunion de service. Et vraiment, toute une équipe blanche persuadée que des jeunes filles noires en situation de minorité, mais en plus de migration, sont là en train de comment dire,
faire une organisation politique,
de faire
au
une
collège.
Exactement, dans limite si c'est pas de la suprématie noire quoi, mais c'était vraiment du grand délire. Mais ce qui est assez pathologique, c'est que c'est les délires qu'on entend dans la bouche des Zemmour sur CNews, que tu peux entendre dans une réunion de service de travailleurs sociaux en France, de personnes qui sont censées accompagner, protéger les plus vulnérables et parmi elles, des personnes noires.
Et du coup, toi qui étais à l'intérieur de tout ça, est-ce que tu as vu, est-ce que tu avais des moyens en fait de dénonciation, des moyens en fait pour que ça change, en fait des moyens pour essayer de faire avancer les choses?
Aucun, parce que dans ces cas de figure, j'ai pu discuter avec d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi. Tu es seule, et quand tu dénonces seule, l'institution entière se retourne contre toi. C'est la même chose pour le sexisme. Par exemple, des filles, j'ai entendu des histoires de filles accompagnées qui vont dénoncer des actes d'agression sexuelle qu'elles subissent. Leur parole est remise en cause par les travailleurs sociaux avant même d'aller dénoncer ça. Et là, c'est la même chose. S'il y a une seule personne dans le travail social qui dénonce, toute l'institution se retourne contre elle. Pareil pour les questions qui touchent au LGBTQIA-phobie. Exactement la même chose. C'est la même dynamique. En formation aussi, j'ai pu vivre des moments très difficiles où on laissait une homophobie la plus décomplexée s'exprimer avec des formateurs qui sont dans la posture de dire « Ah non, mais on chemine ensemble, hein. On peut tout entendre, on va débattre. Moi, je préfère que vous vous exprimiez. » et en fait, les personnes concernées, même non concernées, sont outrées. Mais l'institution laisse faire. Et lorsqu'on dénonce, l'institution se retourne contre nous. C'est toujours les mêmes dynamiques, en fait, partout. Sauf qu'on est dans le social.
C'est jamais évident de travailler avec des personnes, des enfants qui sont en construction et qu'elles subissent en même temps une agression, en fait, raciste ou alors qu'elles sont harcelées sur leur milieu de vie, parce que c'est là où elles vivent quand même et ce sont les personnes qui les entourent. Mais le fait d'être agressée à l'extérieur avec des comportements racistes, de recevoir des micro-agressions à l'extérieur, mais en plus de devoir, quand tu rentres au sein du foyer, là c'est clairement un foyer, si les éducateurs ou même les autres habitants du foyer agressent aussi, c'est vraiment pas évident. Et puis là, il y a personne d'autre envers qui se retourner. D'autant plus que la sphère familiale est déjà éclatée, donc c'est un problème supplémentaire, quoi.
Mais c'est ça, en fait, c'est d'avoir vraiment littéralement personne vers qui se retourner, c'est-à-dire que la chef de service va protéger son équipe, la direction va protéger la chef de service, le chef de service. Aller vers qui? Aller vers le département, le conseil départemental? Personne va trouver que ce que tu racontes, c'est un problème, en fait. Étant donné que c'est très français de ne pas comprendre les discriminations systémiques, ni le sexisme, ni le racisme, ni l'LGBTQIA-phobie. Donc, au final, la scène que j'ai le plus vécue en formation et dans la pratique, c'est les personnes qui me regardent avec des yeux ronds et qui finissent par me dire que soit je dois être neutre, soit je dois arrêter de militer sur mon lieu de travail. C'est toujours
la protection des mineurs, en fait, serait du militantisme.
Des fois, on dirait.
Et qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire aujourd'hui dans le cadre de ton milieu professionnel, de ton travail? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour faire avancer les choses?
Moi, je pense pas mal de choses. J'ai jamais vraiment réfléchi en profondeur parce que pour l'instant, je suis toujours dans la phase où je me prends tout frontalement. Et j'essaie de digérer, mais c'est dur. Je pense déjà que la profession, nos professions ont un problème, c'est qu'on est trop dans le sacrificiel, en fait. Dans le « c'est dur, le climat est dur, les structures sont en souffrance, nos chefs sont nuls, nos autorités sont médiocres, mais nous, on est là et on avance et contre vents et marées et on va quand même être là pour les personnes accompagnées. Il y a vachement cet esprit sacrificiel qui fait que le travailleur social est dans son coin, dans sa bulle et qui fonce tête baissée et qui se dit, moi, je vais y arriver contre vents et marées.
Déjà,
tout seul.
Voilà.
Nous, il nous manque du commun. Il nous manque des structures pour discuter, pour réfléchir, pour se former, pour échanger. Et je pense même au-delà du social qu'on se fédère avec d'autres professions, les infirmières, les infirmiers, les professeurs aussi, parce qu'on a tellement de connexions entre le social et le scolaire à faire.
Bien sûr.
Et que dans tant de situations, on est dans des guerres de chapelles ridicules où les professeurs refusent de parler aux éduques et inversement. Et tout le monde dit « ouais, mais eux, c'est que des cons », ce qui fait vachement avancer la chose au final pour les personnes les plus fragiles. Donc, je pense qu'il faut remettre de l'intelligence collective là-dedans et aussi qu'on arrive un petit peu à faire entrer l'universitaire, en fait, dans nos pratiques de terrain. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de recherche-action, de personnes qui soient et sur le terrain et dans la recherche pour faire le lien et pour trouver des portes de sortie, très clairement.
Ça va être fait bientôt, tu crois ?
On en est très très loin parce que c'est vraiment un esprit particulier, je trouve, hein, dans l'éducation spécialisée, dans le travail social. Déjà, c'est pas pour rien qu'il n'y ait pas grand monde qui sache ce que c'est que vraiment un éducateur spécialisé. Moi, souvent, quand je dis ce que c'est mon activité, je suis éducatrice, on me dit « Ah, mais spécialisée dans quoi ?» Non, en fait, c'est le titre éducateur, éducatrice spécialisée, c'est de l'accompagnement social de terrain qui peut aller dans le handicap, dans les handicaps très variés, en milieu scolaire, ça existe aussi, en prévention, le travail de rue, ce que je fais actuellement, en maison pour enfants, accompagner les enfants placés qui ont été retirés temporairement de leur famille, accompagner les mineurs non accompagnés, donc les mineurs migrants, les familles, les personnes sans abri en centre d'hébergement. Donc c'est tellement vaste et notre métier c'est un petit peu comme être des médecins généralistes en fait, mais du social. Donc on est tous sauf spécialisés au final. Mais par cet esprit, déjà par le fait que les pouvoirs publics ne donnent pas assez au social, très clairement, on est sous-doté de partout, et aussi voilà cet esprit sacrificiel de ne pas chercher à montrer l'action et à montrer les difficultés. Ça, c'est les éducateurs qui se le mettent aussi un petit peu tout seul sur le dos. Faut qu'on arrête, faut clairement qu'on arrête, il faut parler, il faut témoigner, il faut aussi laisser l'espace aux personnes accompagnées pour qu'elles s'expriment, que leur voix soit entendue et qu'elles prennent le pouvoir sur leur trajectoire de vie en essayant à tout prix d'écarter les bons samaritains, les sauveurs qui peuvent tout décider à la place de tout le monde, quoi.
Quel est le lien, le pont que tu fais aujourd'hui professionnellement et ton engagement ? Est-ce qu'il y a un lien d'ailleurs ou pas du tout ?
Ah ouais, alors ça c'est, je galère toujours un petit peu quand on me demande d'expliquer ce que je fais, parce que des fois moi-même je sais pas s'il y a une logique, mais je crois que la logique c'est vraiment la lutte antiraciste. C'est ça qui est omniprésent dans tout ce que je fais. L'association Ibuka travaille certes sur l'histoire du génocide contre les Tutsis, mais en fait c'est un cas d'école de ce qu'a produit le racisme des penseurs tels que Gobineau. Et c'est ce qu'on retrouve partout, et c'est des conséquences qu'on retrouve aussi bien dans cette histoire-là, qui est l'histoire d'un crime contre l'humanité, d'un génocide, que dans les histoires que je rencontre tous les jours sur le terrain quand je suis éducatrice. C'est les mêmes dynamiques destructrices, en fait. Pour le Rwanda, bien sûr, ça allait beaucoup plus loin.
Oui.
On parle de plus d'un million de morts, Tutsi, en 3 mois, entre avril et juillet 94.
Alors, je peux juste me faire... Tu compares... Enfin, j'ai peut-être mal compris, en fait. Les dynamismes racistes au sein, en fait, de ton métier et les dynamismes racismes qui ont créé le génocide, non ?
Bien sûr.
D'accord, tu peux m'expliquer ?
C'est qu'en fait, les deux choses viennent des théories racistes créées par les Européens, tout simplement. D'une partie, ça a créé la colonisation, l'esclavage et tout ce qu'on a connu, et ce qui se perpétue aujourd'hui dans ce qu'on appelle le racisme systémique. Donc, c'est la même origine, en fait. Et la destruction quasi totale et définitive d'un pays, le Rwanda, qui découlent de ces mêmes thèses, en fait, de ces mêmes thèses racistes de classification des êtres humains, des supérieurs, des inférieurs, et qui a été utilisée au Rwanda pour diviser les Rwandais en deux peuples factices qui n'ont jamais existé. Les Rwandais ont toujours été un seul et même peuple, mais les colons, quand ils sont arrivés au Rwanda, ils ont décidé que non. Il y a les Tutsis, qui sont les envahisseurs qui viennent des royaumes d'Abyssinie, d'Éthiopie, de je ne sais où, et les vrais Rwandais, qui seraient les Hutus, qui, eux, viennent vraiment intrinsèquement du Rwanda.
Est-ce que tu peux juste m'expliquer comment ça a été fait, à quelle époque, et par qui, par exemple?
Alors, les premiers à être arrivés au Rwanda, c'était les Allemands. Qui sont pas restés longtemps, mais qui ont quand même réussi à poser leur regard raciste sur cette société, qu'ils découvraient. En fait, ils ont débarqué au Rwanda, qui était une des dernières terres non conquises, donc sur laquelle ils projetaient énormément de fantasmes, hein, les terres inconnues, on sait ce que ça fait aux Blancs. Et ils ont découvert une société très organisée, très sophistiquée. Et ils se sont dit... C'est pas possible que ces noirs-là, ces nègres, aient fait ça tout seuls. Aussi bien organisés, aussi efficaces, aussi stratifiés. Ils se sont dit donc qu'il devait y avoir eu une colonisation antérieure à la leur. Pour expliquer ça, en fait. Parce que pour eux, les noirs, c'est pas ça, c'est pas l'organisation.
C'était en quelle époque, tu disais?
C'était fin 1800. Et donc, ils vont expliquer ça par une théorie complètement loufoque d'une ancienne colonisation qui serait venue des peuples d'Abyssinie. Donc, c'est là qu'on voit que la colonisation, c'est toujours très lié à aux théories bibliques. C'est parce que pour eux, c'était les fils de Cham, quoi. Et donc, on se rapproche quand même des races européennes. C'est tout ça pour faire un lien avec les races européennes et dire que il y aurait des cousins éloignés de la race européenne qui sont allés coloniser les vrais Rwandais pour leur apprendre à un moment l'ordre et la discipline. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Quand l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale et que la Belgique a récupéré ce qu'on appelait le Rwanda-Urundi, parce qu'ils ont lié les deux pays, ils ont continué ces thèses, hein, parce qu'on sait très bien qu'à l'époque, c'était ce qui se faisait de mieux en Europe. Donc eux, ils ont vraiment accentué le travail de classification de la population, de distinction, et surtout d'ancrer dans le marbre ces catégories qui n'existaient pas dans l'esprit des Rwandais. Les Rwandais s'identifient par rapport à leur clan. Les clans sont mixtes. Moi, par exemple, le clan de ma famille, c'est les Batsobé, et c'est surtout un rôle social de transmission des rites royaux. Des clans, il y en a plein en Rwanda, entre 18 et 24, je crois, connus. Et c'est vraiment ça, l'identification des Rwandais. Mais petit à petit, la colonisation a fait comprendre que non, il n'y a pas le peuple rwandais, il y a les Hutus, les Tutsis et les Twa. Les Twa, c'est les Pygmées. Et alors que le mot Hutu, c'est le premier mot à être apparu dans le langage, dans le Kinyarwanda, ça voulait juste dire manant, pauvre, et que la vraie signification, si je puis dire, de Hutu Tutsi, c'est que les Tutsis, c'est les riches, ceux qui auraient, par exemple, plus de 10 vaches, et les Hutus, c'est les pauvres. Mais il n'y a jamais eu aucun souci dans la société rwandaise de passer de pauvre à riche et de riche à pauvre. Mais les colons, vraiment, ils ont tenu sur des années... par des écrits, des textes, des discours politiques, par la religion, par l'éducation, à inscrire dans l'esprit des Rwandais profondément que non, ils n'étaient pas un seul peuple, mais deux peuples très différents. Ce qui n'a aucune base logique et historique. Maintenant, c'est prouvé très très largement. Mais ça a fait des ravages parce que si au début, les Belges sont appuyés sur les Tutsis, qui malheureusement étaient flattés, donc ont accueilli ces théories aussi, donc ils sont appuyés sur
personnes... nommé Tutsi,
c'est
puisque,
ça.
Puisque voilà, c'est comme si je disais beau et moche et que en fait je mettais une catégorie de personnes que je regarde et que je dis bon bah toi avec ces traits-là, je décidais que tu serais beau et toi tu serais moche et à partir de là bah vous faites maintenant deux ethnies, deux populations et non plus une seule.
Exactement, ça a autant de bases réelles que ça. Et donc au départ les Belges s'appuient sur les Tutsis en toute logique parce qu'ils se disent c'est le plus proche des Blancs donc c'est eux qui peuvent diriger. Mais lorsque les Tutsis décident de, comme leurs voisins, de demander la décolonisation, le départ des Belges, les Belges se retournent en fait contre les Tutsis, ils finissent par parler de révolution sociale pour réussir un petit peu à provoquer aussi la solidarité internationale en disant « En fait, c'est pas possible, ça fait des décennies que les Hutus sont opprimés par les Tutsis, alors même que c'est les Belges qui ont organisé ça. Hein. » limite esclavagisés, ils commencent à inventer des choses vraiment improbables. Et donc, ils parlent d'un mouvement, d'une révolution sociale qui s'instaurait au Rwanda, qui est en fait une révolution raciale. Des Hutus contre les Tutsis. Et donc, à partir des années 50-59, les pogroms commencent, les massacres, les écrits politiques anti-Tutsis se multiplient. Étant donné qu'on est dans une société analphabète, c'est beaucoup par la radio, par les images, par la BD. Et année après année, là je fais l'histoire version rapide, mais on met dans l'esprit des gens, des Hutus, que les Tutsis sont des personnes perfides, menteuses, qu'elles cherchent vraiment toujours à exploiter. En fait, c'est le même procédé qui a été créé contre les Juifs en Europe. Exactement le même, mais cette fois pour les Tutsis. On invente même des théories qui voudraient que les Tutsis veulent prendre le pouvoir dans toute la région des Grands Lacs. On fait des petits mélanges de genre avec les Tutsis du Rwanda, les Hima de l'Ouganda, et pour prouver qu'il y aurait cette alliance-là qui viserait à prendre toutes les richesses de la région. Et ça, malheureusement, ça fonctionne. Année après année, décennie après décennie, comme je le disais, ça s'ajoutant aux mauvaises gestions politiques, aux famines qui touchent le Rwanda, en fait, les Hutus deviennent persuadés que la seule manière de faire, c'est de persécuter les Tutsis. Non seulement politiquement, idéologiquement, par pur racisme, le racisme importé par les Allemands et les Belges, mais en plus de ça, parce que tout simplement, lorsque tu brûles la maison d'un Tutsi, c'est toi qui prends sa vache et ses biens. Et c'est comme ça que la dynamique de la violence, de la haine a débuté. Et puis, décennie après décennie, ça continue. Et le pouvoir politique, qui est toujours très important au Rwanda, la voix de l'autorité très importante, passe son temps à justifier, en fait, à dire « Non mais si, brûler la maison d'un Tutsi, c'est bien. Si, voler un Tutsi, c'est bien. Tuer un Tutsi, c'est bien. » Et c'est comme ça qu'on a réussi à détruire un pays à petit feu pour arriver au crime des crimes, qui, encore une fois, c'est quelque chose que je tiens à répéter. Un génocide, ça n'arrive pas comme ça, c'est pas de la folie populaire. Souvent, quand on lit les articles de presse, on écoute les émissions à la télé, on va entendre des « et tout d'un coup, ils se sont entretués ». Comment tout d'un coup ? 94, ça commence dans les années 50. La haine vient petit à petit. Mais quand je dis petit à petit, c'est pas si lentement que ça, parce que déjà, début des années 60, on entend l'ancien président Grégoire Kayibanda annoncer la fin brutale et précipitée de la race Tutsi. Ça, c'est déjà une annonce de génocide, en fait. Et malheureusement, notre histoire est tellement maltraitée par les médias, depuis même l'histoire du génocide, parce qu'en 94, il y avait une poignée de journalistes sur place. Le reste, ils étaient en Afrique du Sud pour Nelson Mandela ou à la Coupe du Monde, je crois. Et en fait, ce qui se passait au Rwanda, souvent, il y avait des dépêches AFP qui étaient reprises vulgairement dans tous les organes de presse. Et des choses bien plus graves, souvent des médias qui avaient des correspondants qui tout simplement étaient dans le camp des Hutu extrémistes. Et donc, c'était les informations négationnistes qui parvenaient dans les médias occidentaux.
Ce qui m'a frappé, moi, c'est que, enfin, moi, j'ai toujours entendu dire, en fait, que ces critères physiques ont été inventés par les Hutus, et en fait, c'est les Français et les Belges qui ont commencé à mettre ces critères physiques en disant, bah, les Hutus sont ainsi et les Tutsis sont ainsi. Et pendant une époque, on pouvait passer de Hutu à Tutsi comme ça, sur demande, comme de pauvre à riche, en fait.
C'est ça, en fait. Avant que les colons ancrent ces ethnies-là. Dans le marbre, Hutu-Tutsi, c'était des catégories socio-économiques. On pouvait vraiment, par mariage, par gain, par perte d'argent, passer d'une catégorie à l'autre, sans souci. Mais ensuite, les anthropologues ont fait leur travail. Ils ont mesuré les nez, les têtes, les crânes, les fronts, les corps tout entiers, et ils ont vraiment fait l'archétype de qu'est-ce qu'est le Tutsi, qu'est-ce qu'est le Hutu. C'est pour ça que pendant le génocide, les tueurs avaient l'habitude de dire qu'il faut couper les grands arbres. Parce que c'était tuer les personnes qui, selon les critères factices et racistes, étaient des Tutsis.
Les critères occidentaux.
Oui, les critères occidentaux, tout à fait. Et ces théories d'anthropologues, elles étaient juste ridicules. C'est l'inverse de ce qu'on attend des sciences sociales. Mmh. C'est-à-dire que on va chercher des personnes dans les collines, au Rwanda, et on dit à la personne grande et fine, au teint un peu plus clair, bah toi, tu vas dire que t'es Tutsi. Et si la personne n'est pas d'accord, elle dégage de l'étude. On va chercher la personne petite, trapue, au trait plus épais, et on va lui dire, toi, t'es Hutu. Et si la personne n'est pas d'accord, parce qu'elle a décidé qu'elle était Tutsi ou que la personne est riche ou que je ne sais pas quoi, ma pareil, elle dégage de l'étude, en fait. Donc, c'est fou de se dire que c'est quelque chose d'aussi grotesque, d'aussi faux, d'aussi mal construit, qui a mené à un génocide aussi meurtrier. Mmh. C'est complètement fou.
Et ce que tu dis là, par exemple, tu me citais en fait des sources tout à l'heure. Où est-ce qu'on peut trouver en fait cette histoire? Où est-ce qu'on peut trouver des preuves de cette histoire en fait, des sources, des références?
Alors, il y a des excellents livres d'histoire. Moi, ma bible personnelle, c'est toujours Jean-Pierre Chrestien et Marcel Cabanda. Rwanda, racisme et génocide, l'idéologie amitique. Ça explique parfaitement tout ça. Ça renvoie vers d'autres sources aussi plus poussées. Si on veut, par exemple, aller voir les fameuses fausses études anthropologistes là qui ont marqué quand même les études françaises jusque dans la fin des années 70. Hein. Mm. Ça aussi qu'il faut retenir, c'est que jusqu'à très tard, on continue à dire « Bah oui, vous comprenez, les Tutsis, c'est une race amitique qui blablabla. » Mm. Dans des études sociologiques en France, c'est quand même fou. Et il y a aussi des ouvrages plus récents comme Florent Piton, un historien. Mais moi, je conseille surtout de lire les témoignages des personnes rescapées. De très nombreux livres ont été écrits, sont répertoriés sur le site internet d'Ibuka France. Il n'y a rien de plus vrai, de plus juste que d'écouter la parole de la personne qui est née, qui a grandi au Rwanda et qui a survécu. Et aussi, il reste les romans, les excellents romans de Scholastic Mukasonga, par exemple.
Oui. Magnifique.
Qui sont toujours des livres que je conseille parce que c'est beau, c'est poétique, c'est vrai, c'est historique et c'est politique. Tout ça à la fois.
Et d'ailleurs, nous avons en fait Notre-Dame du Nil qui se trouve dans notre librairie et vous en avez d'autres. Donc, n'hésitez pas à venir voir tous ces livres. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour donner en fait plus de visibilité, plus de poids à cette histoire? Toi, tu interviens auprès des écoles, par exemple,
oui,
avec l'association.
Tout à fait. J'interviens auprès des écoles pour raconter cette histoire aux élèves, souvent de collège et de lycée. On a beaucoup de conférences programmées tous les ans, c'est de plus en plus. Au départ, ça vient d'un truc un petit peu bizarre, comme les rescapés de la Shoah sont presque... il y en a presque plus. Si tu veux, ils ont commencé à se rabattre sur les rescapés du génocide contre les Tutsis pour parler des génocides. Donc à la base, c'est quand même un truc pas très propre, cette histoire, mais bref. Il y a aussi plein de professeurs qui sont très passionnés, très intéressés par notre histoire d'une manière beaucoup plus saine. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore faire, accompagner une personne survivante. Souvent, je vais faire la partie historique pendant 40-45 minutes, présenter les faits les plus importants de l'histoire du génocide contre les Tutsis. Et ensuite, la personne apporte son témoignage, son vécu pendant le génocide. Et ça apprend beaucoup aux élèves. Et souvent, ce dont je me rends compte, c'est qu'on est les premiers à venir leur parler du racisme, du vrai. Sans dire le racisme, c'est mal, il faut pas être raciste. Le vrai racisme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que les Européens ont théorisé? Qu'est-ce qu'ils ont fait sur le continent? Qu'est-ce qu'ils ont importé par la suite? De partout dans le monde, en fait. Et c'est toute une logique, en fait. Souvent, je dis que le génocide contre les Tutsis, ça peut être l'un des cas d'école de ce que peut produire le racisme de pire. Parce que c'est ça de A à Z. C'est qu'est-ce que les Blancs ont projeté sur le Rwanda? Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils y étaient? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour la domination, pour leur entreprise capitaliste, pour leur classement dans le grand concours des nations? Qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de diviser pour mieux régner? Jusqu'où ils sont allés? On n'a pas encore parlé de la France, parce que la France n'était pas colonisatrice au Rwanda. Mais elle a plus ou moins pris la main mise, en fait, de suite après la Belgique. Quand la Belgique a décidé de se retirer, dans les années 70, la France a très vite pris ses marques, multiplié les accords de coopération, nouer des liens extrêmement forts d'amitié entre les familles. Par exemple, les familles Mitterrand et Habyarimana. Mm-hmm. Habyarimana qui a pris le pouvoir par un coup d'État au Rwanda en 73. Et franchement, la politique de la France-Afrique, elle a été cette politique-là d'horreur absolue la plus pure au Rwanda. Mm. Jusque dans les années 90. Par exemple, dans les années 90, comment on explique que dans un si petit pays, la France envoie des centaines de soldats. C'était même plus essayer de se cacher derrière un accord de coopération. Non, la France a pris le contrôle de l'armée qui, quelques mois, quelques années après, allait commettre le génocide. Mm. Donc il y a vraiment une très longue histoire de collaboration de la France avec le Rwanda extrémiste qui n'a jamais pris fin jusqu'à après le génocide contre les Tutsis. Là, ça fait l'actualité. Parce qu'il y a eu le rapport Duclert, rapport d'historien commandé par Macron pour faire, je mets des guillemets, faire la lumière sur ce que la France a fait au Rwanda. Ce que la France a fait au Rwanda, on le sait depuis longtemps.
Oui.
Ça, c'est la petite manipulation de communication politique pour dire, nous, on va vous expliquer de manière un peu gentille et censurée ce qui s'est passé.
Le lever des secrets aussi, des documents concernant la France, en fait,
c'est ça.
Durant justement ce génocide des Tutsis au Rwanda.
Mmh. Sauf qu'en fait, ce rapport est complètement biaisé parce qu'il parle d'aveuglement. Alors que c'était tout sauf de l'aveuglement. La France savait parfaitement dans quoi elle était, quel était le projet des hommes politiques et des femmes politiques aussi, parce qu'il y en avait, qui préparaient le génocide. La France savait tout, en temps et en heure. Donc il n'y a pas une question de « on savait pas », de « on a continué à les aider, mais en même temps, on n'avait pas vu ». La grande excuse souvent de quelqu'un qui s'appelle Hubert Védrine, qui était le bras droit de François Mitterrand en 94, secrétaire général de l'Élysée, qui a participé à toutes les réunions qui concernaient la France et le Rwanda depuis les années 90, au plus haut niveau, lui dit… nous avons œuvré pour les accords de paix. Nous avons toujours cherché la paix, cherché la coopération. C'est faux. La France a toujours été du côté des extrémistes hutus en connaissance de cause.
Entre la... Pourquoi ?
Je vais y venir. Mais juste pour finir là-dessus, entre la nuit du 6 et du 7 avril 94, quand l'avion du président Habyarimana est abattu par les extrémistes et qu'en fait c'est le top départ du génocide. Mmh. C'est un petit peu l'excuse pour pouvoir dire aux ondes de la radio, aux populations, regardez ce que les Tutsis ont fait à votre président, maintenant on va commencer le génocide. Hubert Védrine, en fait, il fait croire que cet attentat, c'est les Tutsis qui l'ont commis. Et que c'est les Tutsis qui ont provoqué leur propre génocide. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il va se battre pendant des années, jusqu'à ce qu'il soit un tout petit peu écarté du pouvoir politique. Il y a des juges français qui vont se compromettre dans cette histoire, le juge Bruguière, qui pendant des années, va mener une enquête à charge contre les autorités de Kigali actuelles en disant « non, en fait, c'est vous qui avez créé le génocide ». Ça, c'est le négationnisme, la négation, le déni au plus haut niveau de l'État français pour justement masquer que l'État français était en collaboration, c'est le terme, total avec un pouvoir génocidaire avant, pendant et après le génocide, jusqu'à vouloir réarmer l'armée en fuite au Zaïre pour leur permettre de reprendre le contrôle, en fait.
Et quand tu parles de réarmer, dans le livre de Saint-Exupéry, on voit aussi que l'armée française a entraîné, en fait, les Hutus qui étaient en train de massacrer... les Tutsis, en fait. Donc,
c'est ça. C'est pas pour rien que lorsque les journalistes sont arrivés, ils ont vu les tueurs les prendre comme des amis. Ils ont vu des Français blancs et ils se sont dit « Ah, mais c'est comme nos amis les militaires. » Donc, ils se sont comportés avec les journalistes comme avec leurs amis militaires. Ils allaient leur faire leur compte-rendu. Ah, machette encore sanglante, aller voir le journaliste français et dire « Aujourd'hui, j'ai tué toute une famille. Je suis allée dans telle école et voilà ce que j'ai fait. » Fièrement. Parce que c'était comme ça qu'était perçue l'alliance entre la France et le Rwanda. Donc c'est jusque là que ça va, et c'est pour ça que c'est important pour nous de nous battre pour que la vérité ne soit jamais déformée, parce que l'objectif, c'est la prévention. la lutte contre les crimes de génocide. Et si on ne parvient pas à mettre en lumière les histoires passées, on ne peut pas faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Mm. Parce que sinon, on tombe toujours dans l'histoire prise sous le prisme sentimentaliste. Mm. Oh, c'est triste. Oh, c'est horrible. On se souvient, on honore la mémoire, mais cette mémoire, elle est politique, en fait. Mm. On n'est pas juste là pour que les gens pleurent et se disent « Oh, mais finalement, l'histoire du Rwanda, c'est la plus triste de toutes les histoires. » Non, c'est pas ça notre but. C'est vraiment que les gens utilisent leurs émotions à une visée politique pour se dire que c'est des choses qui sont planifiées, qui sont pensées par des intellectuels. Ces familles détruites, ces enfants tués, ces veuves, le viol comme acte de guerre... C'est quelque chose qui est produit par des esprits intellectuels qui l'ont pensé dans un but de domination politique. Et ça, on se doit de le marteler, malgré le fait que les gens ont toujours envie de voir l'histoire du Rwanda comme l'éternelle tristesse de l'Afrique qui va mal et qui est tout le temps en guerre. C'est pas ça, c'est politique. Et il y a la France au milieu. Mmh. Parce que sans la France, le génocide n'aurait pas pu avoir lieu. Il n'y aurait pas eu l'argent, il n'y aurait pas eu les armes. Mmh. Les 1 million de morts là, ça aurait peut-être été... oui, il y aurait peut-être eu des morts, mais ça aurait pas été le génocide contre les Tutsis tel qu'on on l'a vu se produire.
Et puis cette création de l'ennemi déjà a été créée, comme tu disais tout à l'heure, par l'Allemagne et la Belgique.
Déjà.
Et la France est venue mettre son grain de sel par la suite en fournissant les armes et en entraînant les militaires.
Et c'est ça. Et dans le but de... Parce qu'on dit toujours quel but. Et d'ailleurs... Hubert Védrine arrive toujours par une géniale pirouette à essayer de s'en sortir par là. Il dit « Mais enfin, c'est ridicule, nous on n'avait aucun intérêt au Rwanda, il n'y a pas de matière première. » Déjà, c'est assez fou de dire ça. Hein. Ça veut dire qu'il assume que dans pas mal d'autres histoires de France-Afrique, c'est vraiment le vol des matières premières qui les guide. Mais bref, en fait, le but de garder le Rwanda, c'était la protection du précaré français, tout simplement. On est dans une zone où il y a pas mal d'anglophonie, même entouré par l'anglophonie. Et pour François Mitterrand, il était hors de question que les Tutsis venus d'Ouganda, les réfugiés, prennent le pays, en fait, et lui enlèvent un allié. C'est ça, et la réputation de la France en Afrique aussi qui jouait, parce que si la France ne parvenait pas à soutenir son allié à Biarimana, tous les autres chefs d'État allaient se dire « Mais en fait, ça sert à quoi ?» d'être allié avec la France. Donc c'est des calculs politiques de la sorte. Ce ne sont pas des aveuglements parce que encore une fois, la France savait pertinemment à qui elle avait affaire. Mais c'est un choix politique délibéré de se dire que la vie des Africains ne vaut pas la vie des Européens. Que ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, il a pu le formuler de la sorte, François Mitterrand, génocide dans ces pays-là, c'est pas important. En fait, c'est vraiment ça, la morale de l'histoire pour eux.
Bah écoute, où est-ce qu'on peut trouver, donc, si tu peux juste nous reciter les quelques références sur le rôle de la France au Rwanda dans le génocide des Tutsis et aussi la présence de la Belgique et de l'Allemagne.
Alors les références historiques, Hélène Dumas, Jean-Pierre Chrétien, Marcel Cabanda, Florent Piton. Sur le rôle de la France au Rwanda, Survie fait un excellent travail, l'association Survie. Et Raphaël Doridan et François Graner ont sorti un ouvrage « L'État français dans le génocide contre les Tutsis » qui est très, très, très complet. Ils ont aussi pas mal d'articles sur leur site. Je conseille encore une fois vraiment d'aller vers les témoignages de personnes rescapées.
Et on peut les retrouver où, ces témoignages ?
Sur YouTube, sur le site internet d'Ibuka et sur aussi le site du Mémorial de la Shoah, parce qu'on a un partenariat avec eux depuis fort longtemps. Et les livres des personnes rescapées, encore une fois, on a Annie Kaitesi, on a Charles Abonimana, on a Félicité Liamoukourou, et encore une fois, c'est sur le site d'Ibuka France. Mais c'est vraiment ce qui me tient à cœur toujours, c'est de rappeler que c'est la voix des rescapés, des personnes survivantes, qui est la plus importante, en fait, qui est la plus politique aussi. Ils ont vécu, ils ont vu. Tout fait sens lorsqu'on lit leurs mots, lorsqu'on entend les témoignages. Il n'y a vraiment pas besoin de même se mettre le nez dans toutes les théories, comme je disais, des anthropologues, des sociologues et tout. Tout transparaît de leurs expériences de vie, en fait. Et les romans de Scholastic Mukasonga, vraiment très importants. Plus récemment, il y a Petit Pays, de Gaël Faye.
Gaël Faye, oui.
Mais il faut faire un petit peu attention à creuser le sujet quand même autour de petits pays, parce que il y a des allers-retours qui sont faits entre l'histoire du Burundi et du Rwanda.
Oui.
Et c'est similaire, mais c'est pas pareil. Donc je pense que les gens peuvent faire des confusions s'ils se précipitent sur petits pays sans creuser, parce que au Burundi, il y a aussi eu de nombreux pogroms, parfois contre les Tutsis, parfois contre les Hutus, mais il n'y a jamais eu un génocide de la sorte, parce qu'un génocide, c'est un crime planifié par un État. C'est là où souvent les gens se trompent, parce que on appose le mot génocide pour dire toujours « mon histoire, c'est la plus importante », mais un génocide, la qualification, elle existe pour qu'on juge bien ce crime, en fait. C'est le crime perpétré par un État. Et au Burundi, il n'y a pas encore eu de génocide, fort heureusement. Mais par contre, c'est des histoires, effectivement, de guerre, de massacres interethniques. Et petit pays fait des allers-retours entre l'histoire du Burundi et l'histoire du Rwanda. Donc, il faut quand même faire attention à pas mélanger. Mais si je me trompe pas, il y a un guide historique qui accompagne le livre.
Alors, je n'ai pas le souvenir parce que je l'ai lu plusieurs fois aussi et c'est un roman, hein, bien
oui,
sûr.
Oui, bien sûr.
Mais ça se peut que maintenant il y en ait un, hein, je sais pas.
Je sais de source sûre parce que un jour j'ai proposé à Gaëlle Faye de faire un guide e-booka un petit peu pour faire des explications historiques autour du livre et après il m'a dit ça existe déjà,
c'est
donc
déjà
je me sentais un peu bête. J'ai dit ok, merci Jessica, tu as bien fait tes recherches. Mais du coup, c'est pas forcément dans le livre quand on l'achète,
d'accord.
Mais ça existe aussi.
Ok, d'accord. Alors peut-être qu'il y a un lien à un moment, peut-être à la fin de la page ou autre.
Hein, ouais, je pense.
Donc, peut-être. Donc, oui. Bah, écoute, merci beaucoup et j'espère que vous allez être toutes et tous nombreux pour aller regarder un petit peu ce que fait l'association Ibuka et suivre le travail de Jessica. Merci à toi, Jessica. Est-ce que tu aurais un dernier mot justement à adresser, que ce soit aux enseignants, que ce soit aux parents ou aux personnes qui nous écoutent tout simplement?
Un dernier mot adressé. Ah, bah, peut-être que c'est la curiosité, en fait, qui fait avancer nos combats. Ne pas se contenter de la petite musique et du petit bruit qu'on entend sur une histoire. Essayer de creuser nos sujets. J'ai toujours un petit peu de mal avec l'expression donner la parole aux personnes concernées, parce que s'agissant du Rwanda, ça pourrait être aussi les tueurs. Donc, on va essayer de pas leur donner la parole. Mais en tout cas, de vraiment faire cet effort de recherche et d'honnêteté intellectuelle dans la recherche pour réussir à trouver un petit peu la vérité et à la porter plus haut.
Bah écoute, merci à toi en tout cas.
Merci beaucoup.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis retrouvez Jessica sur son site, sur son Instagram ou alors sur Ibuka. Voilà. Merci. À bientôt Jessica.
À bientôt, merci.
Vous venez d'écouter Les enfants du bruit et de l'odeur. Si le podcast vous a plu, alors soutenez-le. Partagez autour de vous. Suivez-nous sur Instagram. Vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions. Et surtout, mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast.